êtes bien dans l'émission Ça part de là sur Radio Campus Montpellier, où je reçois Gwen Vibancos lors du festival Polva au cinéma. Dans cet épisode, il nous explique son rôle de concept artiste dans le milieu de l'audiovisuel, mais retrace aussi son parcours en autodidacte, de quoi désacraliser les métiers de l'illustration et nous en apprendre plus sur ses professions de l'ombre. Je vous laisse écouter ça. Salut Gwen et bienvenue dans l'émission Ça part de là.
Salut Marie.
Très contente de te recevoir aujourd'hui. On va parler de ton métier, de tes métiers. Est-ce que pour débuter, tu pourrais un petit peu contextualiser qu'est-ce que c'est qu'être illustrateur, mais surtout concept artiste, parce que c'est peut-être pas un nom qui résonne pour tout le monde, quoi.
Effectivement, c'est plus ou moins méconnu encore en France. Donc, illustrateur, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Donc, j'ai pu faire dans ma petite carrière des pochettes d'albums de groupe, des couvertures de romans, des affiches pour des films ou des festivals. Et ensuite, le métier de concept artiste, alors ça consiste plus à utiliser sa capacité en dessin, en fait, pour faire des créations, de la recherche, en fait, de design surtout. Par exemple, j'ai eu l'occasion de travailler pour des jeux vidéo par moment. Et dans les jeux vidéo, par exemple, il faut trouver des designs d'armes, des designs de personnages, d'armures, des vaisseaux spatiaux, tout et n'importe quoi. Donc le concept art, en gros, ça consiste à créer les choses en 2D pour la 3D.
Et cette passion-là pour l'illustration, pour la création, elle part d'où, en fait? Ça commence quand?
Alors ça a commencé très très jeune. Du plus loin que je me souvienne, je commençais à avoir une attirance vraiment pour le dessin quand j'avais 10 ans. Moi, je suis de la génération des années 80-90, donc du coup, j'ai commencé mes premières armes en recopiant les Tortues Ninja, les Chevaliers du Zodiac, toute cette vague-là. Ça aussi, je suis la génération Club Dorothée. Je pense que c'est un truc, ceux qui ont connu ça, ça les a profondément marqués. Et moi aussi, c'est vrai que ça a complètement stimulé mon imagination énormément, toutes ces œuvres de l'époque. Ça m'a donné envie de faire tout ça, de m'intéresser à tout cet univers. J'ai des parents qui étaient eux-mêmes artistes aussi, pas à niveau professionnel, mais dans ma famille, ça dessinait, ça faisait de la musique. Enfin, l'art a toujours été relativement important. C'est ça qui a fait qu'ils m'ont laissé relativement libre de faire ce que je veux et puis de vouloir devenir qui je veux devenir. Donc ça remonte à très longtemps, en fait. Et j'ai encore une pleine mallette chez moi de bandes dessinées que je faisais. Et ça part de mes 12 ans jusqu'à mes 18 ans. Pourtant, c'était que pour le plaisir. J'avais pas encore d'ambition professionnelle là-dedans. Mais de mes 12 ans à mes 18 ans, j'ai produit des BD pour le fun. La plupart, je les finissais jamais, d'ailleurs. C'était juste pour mon plaisir, pour faire délirer les potes.
Mais tu montrais un petit peu quand même aux gens ce que tu faisais.
Ouais, carrément, c'est ça, pour avoir des retours un peu. Et oui, non, ça fait très longtemps que j'ai ça en moi. Et voilà, et j'avais laissé tomber un peu ça, le temps de faire de la musique. Et puis quand la musique s'est terminée, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant? Et là, je me suis dit, bah, essaye le dessin. T'as ça depuis que t'es tout petit, ça te fait un truc en moins à apprendre vraiment. Enfin, tu pars pas de zéro là-dedans. Donc voilà, je me suis dit, bon, je me laisse 3 ans pour essayer de commencer à vivre des choses intéressantes. S'il se passe rien dans ma vie d'intéressant, je ferai caissier à Carrefour. Et puis, si jamais il se passe des bonnes choses, ben, je continuerai. Donc je suis toujours là, donc ça veut dire que ça s'est bien passé.
Je crois que c'est notre crainte à tous de finir caissier.
Ouais. Mais c'est bien aussi de se laisser, on se dit, un laps de temps. Allez, je me laisse 3 ans à me donner à fond, et puis s'il se passe rien, je laisse tomber.
Quand tu dis que la musique s'est arrêtée, c'est que ça fait partie de ta carrière à un moment donné
J'ai eu cette ambition rapidement. Oui, j'ai eu un groupe de métal qui a duré 6 ans. On a sorti plusieurs albums nationalement et tout. On a fait des petites tournées. Voilà, on avait ce petit rêve à l'époque d'essayer de percer dans la musique.
Ok. Et du coup, là, ce que tu fais quand tu fais notamment du concept art, ça s'appelle un peu comme ça, c'est que tu travailles beaucoup avec le digital. Toi, t'as plus commencé avec la BD, donc j'imagine plus du papier. Et le digital, il est arrivé à quel moment, du coup? Et est-ce que c'était une transition simple pour toi?
Alors effectivement, c'est une très bonne, c'est un très bon sujet que tu relèves, parce qu'effectivement, j'ai vécu cette transition avant Photoshop et une fois que Photoshop est arrivé dans le marché. Et donc effectivement, je commençais par du traditionnel pur. Même quand j'étais en mode à l'arrache, je colorais mes BD au crayon de couleur, pour te dire. Parce que j'étais très mauvais en peinture, donc la peinture, j'avais laissé tomber. Donc ouais, je faisais tout à la main, même les couleurs au crayon de couleur. Et ensuite, j'ai découvert l'existence de Photoshop. J'ai voulu me lancer, mais j'avais un peu peur. J'étais un peu même réticent à ça au tout début, quand c'est arrivé. Et un jour, j'ai un pote qui me dit, ben moi, j'ai une tablette graphique à te donner, je ne l'utilise pas, elle m'a coûté que 40€, vas-y, je te la donne. Et moi, je lui dis, ouais, mais je ne suis pas trop motivé et tout. Et il me dit, t'inquiète pas, l'essayer, c'est l'adopter. Et effectivement, cette phrase, il a eu totalement raison. À partir du moment où j'ai découvert cette sensation de dessiner en numérique avec un stylet sur une surface en plastique connectée à un ordinateur, j'ai ressenti un truc très fort, un sentiment de facilité aussi, d'aisance, de confort et tout, qui m'a pas lâché depuis, quoi. Voilà, donc du coup, je bosse exclusivement, enfin, je garde le traditionnel quand même à côté pour m'entraîner, pour le plaisir du papier et du crayon, mais ouais, ça fait une dizaine d'années que je fais que du Photoshop professionnellement, tablette graphique, ordinateur, quoi.
C'est un point qu'on n'a pas encore soulevé, mais que ce soit le digital ou le papier, tu t'es formé tout seul. Il n'y a pas eu d'école, même pas de cours. T'as pas suivi de cours, d'ateliers, de...
Alors effectivement, le seul truc qui s'apparente à des cours, c'était oui, ma mère, avec le peu de sous qu'elle avait, elle m'avait payé des petits cours de, de dessin traditionnel où on te pose une tête de biche empaillée, puis tu dois la recopier sur du papier canson en mode très beaux-arts. Mais j'en ai pas fait longtemps, j'en ai fait, je crois, 4 séances, quoi, 4 jours. Mais effectivement, j'ai tout appris tout seul. Je suis 100% autodidacte, donc je me suis lancé à la recherche d'informations. Et du coup, vu qu'il y avait déjà Internet, YouTube et tout ça, j'ai énormément appris grâce à YouTube. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ouvert moi-même une chaîne aussi. C'était que j'ai tellement appris grâce à YouTube, en dessin en tout cas, que j'ai voulu ouvrir une chaîne de dessin où je francisais un peu tout ce savoir qui était plutôt américain ou anglais ou un truc comme ça. Et j'ai énormément appris grâce à ça. Après, bon, il faut beaucoup d'autodiscipline, mais je me suis énormément documenté. J'ai maté des heures et des heures de vidéos. J'ai essayé d'appliquer aussi, en faisant moi-même mes propres dessins, appliquer vraiment ce que j'avais appris dans ces vidéos. Et j'ai eu une passion directement, quoi, pour tout ça, pour ce métier, le fait de créer, de faire du character design, de l'environnement design, du props design, donc props ça veut dire accessoire en anglais, et une énorme passion qui me suit encore, quoi.
Mais c'est intéressant le fait que tu dises franciser la chose, parce que j'avais reçu Atom, un youtubeur aussi, il y a un an, et il disait que pareil, à l'époque, lui, il s'est formé tout seul grâce à des vidéos américaines, et que son souhait d'être sur YouTube, c'est aussi un peu de franciser ça, quoi, et de donner accès en tout cas aux Français à ce savoir-là. Donc c'est super intéressant.
Et puis moi, en plus, ça m'a vraiment choqué d'avoir tous ces cours disponibles gratuitement sur YouTube, parce que c'était des concept artistes qui avaient bossé sur des énormes productions, des gros films, hein, Star Wars, Transformers et compagnie, et de voir que ces gens-là avaient cette humilité de diffuser gratuitement une partie de leur savoir, c'est pas leur savoir entier, mais une partie tout du moins, et moi de recevoir tout ça gratuitement, je me suis dit, il faut que je sois le vecteur moi aussi de ce savoir pour les petits Français, les petits débutants qui veulent se lancer là-dedans, essayer de motiver les gens, et d'arriver à apprendre d'une manière la plus pédagogique possible aussi des concepts un peu compliqués en dessin. C'est vrai que l'anatomie, la perspective, la théorie des couleurs, la théorie de la composition d'une image, c'est des trucs qui sont plus ou moins durs à appréhender, et j'ai essayé de retraduire, de redigérer tout ça pour le redire à ma sauce, mais apparemment ça a bien marché. J'ai eu beaucoup beaucoup de gens qui m'ont félicité, qui m'ont remercié de les avoir motivés, de leur avoir aidé à comprendre des fondamentaux du dessin qui sont pas faciles à aborder, quoi.
C'est bien, parce qu'en plus d'une transmission, ça permet aussi de remettre un petit peu en valeur peut-être certains métiers qu'on oublie parfois en regardant des films.
Ouais, c'est clair. Moi, j'étais pas du tout au courant qu'il fallait de la 2D, en fait, pour créer comme ça des designs, même pour des gros films comme Star Wars, qui a eu besoin d'un dessinateur avec son crayon qui a dessiné les premières esquisses de Luke Skywalker, de comment il sera habillé. Le sabre laser aussi, il a été créé par ce dessinateur. Ça m'a retourné le cerveau, ça, de comprendre tout ça, en fait. En France, c'était pas très connu à l'époque.
Ok. Et du coup, là, aujourd'hui, toi, tu travailles en autodidacte, mais tu travailles aussi avec des studios. Enfin, en tout cas, t'es pas, peut-être pas dans l'équipe concrètement, mais tu travailles avec eux, notamment avec TAT. Est-ce que tu peux nous introduire, en fait, comment vous en êtes venus à travailler ensemble?
Alors, petite rectification aussi, je travaille vraiment en studio avec eux. Je suis un membre officiel, entre guillemets. Mais effectivement, j'ai commencé par le freelance. J'ai été freelance pendant une dizaine d'années, en fait, illustrateur et concept artiste. Donc, j'ai bossé sur plein de projets divers et variés. Donc, ça m'a fait une bonne école aussi. C'était super. Et en fait, un jour, ils m'ont appelé pour Terra Willy, TAT Studio. C'était en fin de production parce qu'ils avaient un petit rush. Ils avaient besoin de renfort un peu. Ils étaient un peu short au niveau des délais et tout. Donc, en fait, ils ont cherché des gens. Là où j'ai commencé à bosser officiellement avec eux, c'était pour la saison 3 des As de la Jungle. Et pour ça, en fait, c'était que la personne qui était en charge des recherches graphiques 2D pour les As de la Jungle, elle est tombée enceinte.
Ok.
Et en fait, du coup, il fallait qu'on quelqu'un la remplace. Et en fait, elle a tout de suite pensé à moi par rapport à Terra Willy, et vu que le studio avait bien aimé mon boulot, mon côté rapide, pro, sérieux, quoi. Donc, ils ont tout de suite pensé à moi, et voilà, ça a été le début du rêve, quoi. C'était génial.
T'avais déjà travaillé sur des films avant ça ou pas?
Surtout des courts-métrages, pardon. Okay. J'avais fait pas mal de courts-métrages, des petits films d'horreur et tout, des trucs où il y avait besoin justement de créatures et de trucs un peu imaginaires. C'était très très sympa. J'ai bossé avec des studios du Luxembourg, des studios français évidemment, des parisiens. Non, j'avais fait surtout des courts-métrages. Ouais.
Et travailler du coup avec des équipes aussi grandes et un grand studio, ça change quoi du coup? C'est comment de travailler en équipe?
Moi, ça a été une bouffée d'air frais parce que du coup, pendant 10 ans, t'es enfermé chez toi. Après, ça a des super côtés, le télétravail. Moi, j'ai adoré le fait d'être son propre patron, d'aménager tes horaires comme tu veux, de prendre des vacances quand tu veux. À part que quand tu veux des vacances, du coup, t'arrêtes de travailler, tu refuses les commandes pour avoir du temps libre pour faire tes vacances. Il n'y a pas de chômage et tout, là, c'est un peu compliqué, mais et c'est vrai que il y a plein d'aspects que j'aimais beaucoup dans le freelance, même la diversité des projets aussi, en fonction des gens qui vous appellent. Vous bossez sur une fois de la science-fiction, une fois de l'horreur fantasy, une fois de l'horreur, du steampunk, enfin j'ai fait un peu tous les styles, c'était génial, plein de styles que j'aime beaucoup, qui sont liés à l'imaginaire. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler à TAT Studio, déjà ce qui était génial, c'était l'émulation avec les gens, de enfin travailler avec des gens à côté. Alléluia, c'était trop bien, trop agréable. En plus, finalement, tous ces gens-là que j'ai rencontrés, c'est des gens un peu comme moi, quoi. Des gens qui ont cette même passion, même s'il y en a qui font des rôles différents dans le studio. Voilà, il y a plein de mes amis qui bossent en 3D, mais qui aiment bien faire du dessin à côté aussi pour le fun. Ou alors des amis qui font aussi freelance comme moi. Donc, on a plein de sujets de conversation où on peut parler de nos activités freelance, je sais pas, en termes d'administratif, les impôts, l'URSSAF, la maison des artistes, le machin. Donc, plein de discussions intéressantes. Et après, j'ai adoré pouvoir. Il y a vraiment des moments où on discute entre nous de comment résoudre tel problème graphique pour tel film ou telle série ou truc comme ça, à TAT. On n'est pas juste des simples exécutants, quoi. Il y a des moments où on peut se poser avec le chef de projet, le chef d'équipe, pardon, se poser ensemble en disant bon, comment on peut faire ça là? On nous demande, par exemple, pour Patty, à un moment donné, il y avait un amphithéâtre qu'on devait faire que en bouquin parce que ils sont dans une bibliothèque. Donc il fallait s'imaginer que les animaux étaient allés récupérer des livres pour en faire des sièges, et il fallait que ça ressemble un peu à des escaliers d'amphithéâtre et que ça ait cette forme un peu dans demi-cercle et tout. Et ça, au début, on savait pas trop comment organiser le truc, tu vois, comment faire en sorte que ça fasse bien la blague, qu'on comprenne que c'est des bouquins pour que le spectateur comprenne que c'est des animaux qui réutilisent un peu des objets humains pour faire leur propre univers. Il y a des choses qu'on nous demande de faire qui sont pas toujours faciles à imaginer, à faire, à créer. Et ça, du coup, c'est plein de moments de discussion aussi qui sont super intéressants, où on essaye de trouver différentes pistes, avant même de dessiner sur papier, où on fait une sorte de brainstorming de comment on va faire tel truc ou tel truc. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours adoré faire et qu'avant, je faisais un petit peu avec mes clients quand j'étais freelance, de discuter de « Ouais, comment tu veux la couleur de l'armure du machin ?» Mais souvent, les mecs, c'est pas des spécialistes en face. Même des fois, je faisais des commandes pour des particuliers aussi. Je faisais pas des commandes que pour des grosses structures ou quoi. Et c'est vrai que c'est pas pareil. Alors que là, je suis avec d'autres gens qui sont dans la même équipe que moi, où on va travailler sur des décors ensemble et que, il y a cette réflexion, cette intellectualisation un peu du truc qui est vachement agréable. Et moi, j'ai adoré découvrir vraiment les coulisses de comment on fait un film de A à Z, quoi. Maintenant, si je voulais, je pourrais ouvrir mon propre studio demain, si je voulais. Je sais de qui il y a besoin, comment ça se fait, c'est quoi le processus, même les recherches de subventions, le fait de vendre son projet à des producteurs, j'ai appris tout. Et ouais, je pourrais, techniquement, maintenant, je sais tout le processus de création et c'est juste hyper passionnant en fait. C'est une... tout le monde a des rôles excellents et des rôles importants pour le film, pour chaque film. Et c'est hyper intéressant quoi.
Et au moment où tu t'intègres cette team, ils ont quand même des designs qui sont très différents de toi, ton univers de base. C'est facile de s'adapter comme ça à la clientèle, même avant en freelance. J'imagine que d'un projet à un autre, tu as dû vachement t'adapter.
Alors c'est vrai qu'en freelance, c'était plus compliqué parce qu'effectivement, on peut passer du coq à l'âne. Alors que bon, Théâtre Studio, quelque part, ils ont un peu leur charte graphique, ce côté très Disney, Pixar, DreamWorks, hein, pour schématiser. Ça reste quand même très cartoonesque et moi au début ça m'a fait un peu peur aussi de me dire est-ce que je vais arriver à avoir ce style cartoon. Parce que comme tu l'as peut-être vu, c'est vrai que moi mon travail plus personnel c'est plus du semi-réaliste, des trucs comme ça, des trucs un peu plus épiques, cinématiques et tout. Et en fait ce qui était vachement intelligent de leur part aussi à l'époque où ils m'ont recruté pour Terra Willy et puis ensuite qu'ils ont voulu me garder pour les As et tout ça, c'est que au final alors moi je précise aussi pour le podcast que du coup le métier que je fais actuellement à TRT c'est purement focalisé sur les décors en eux-mêmes, je fais pas de personnages, je fais les décors et les accessoires et en fait les accessoires qui habillent le décor aussi. Et en fait c'est vrai que c'est là que j'ai appris que dans un film d'animation, même s'il a ce côté très Disney, très Pixar, très cartoon, en fait c'est pas tellement le décor qui amène cette touche cartoonesque, ça va être plus vraiment les personnages, voire peut-être des fois certains des objets qu'ils manipulent qui vont avoir une forme un peu délirante, un peu exagérée, un peu cartoonesque. En fait, les décors, s'ils sont un peu semi-réalistes, c'est bien aussi. Parce que finalement, c'est pas ça qui amène vraiment la touche, à part peut-être de faire une maison un peu bancale, un peu rigolote, mais ça me demandait pas, moi, d'avoir vraiment l'impression de sortir de ma zone de confort, donc ça, c'était cool. Et en même temps, il y a eu des moments où j'ai dû m'adapter, et au final... Je suis tellement passionné de tout ça que même de m'adapter à des styles qui sont pas les miens, de justement, comme je disais, de sortir de ma zone de confort, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et ça, même quand on étudie ne serait-ce que le bien-être en général, c'est un truc que les gens conseillent tout le temps, c'est de sortir de sa zone de confort pour apprendre des nouvelles choses et s'enrichir de choses qu'on n'a pas l'habitude de, vers lesquelles on n'a pas l'habitude d'aller. Donc ça, graphiquement, ça tient aussi, ça, c'est aussi valable. C'est, dès que tu sors un peu de toi, ça t'apprend des nouvelles choses, ça enrichit qui tu es, ça enrichit ton style graphique, là, si on revient au graphique. En ce moment, par exemple, à TAT, on travaille sur un projet de série d'Astérix qui a été commandé par Netflix. Donc ce sera une série en 3D, comme les films d'Alexandre Astier, avec Alain Chabat à la réalisation, c'est un truc de malade. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans que j'allais bosser pour ça, je t'aurais dit mais arrête la moquette. Et là tu vois par exemple comparé à ce qu'on fait à TAT, il fallait arriver à garder l'univers Uderzo graphiquement, tu vois, qui a apporté beaucoup graphiquement. C'est que le style Astérix en dessin il est excellent, même encore là en 2023 on a réanalysé tous les vrais albums et je trouve que son style il marche encore bien maintenant. Il avait même un sens du design et un sens du concept Uderzo qui était génial quoi. Il arrivait à en quelques lignes à synthétiser, à faire des trucs mais trop stylés en 3-4 lignes. Et toi, quand tu essaies de le refaire, tu te dis, purée, c'est pas aussi bien, j'arrive pas à faire. Pourtant, il y a que 3 traits, mais je sais pas, il avait une alchimie dans sa façon de poser les traits. Tu sens qu'il y avait vraiment beaucoup de technique et beaucoup de connaissances. Et ça, tu vois, par exemple, sachant que ça aurait pu me faire peur il y a 5 ans, de m'adapter au style Goscinny, il y a même des recherches que j'ai dû faire où c'était clairement le style Goscinny. Par exemple, j'ai travaillé sur la tête de bœuf qu'il y a sur la maison d'Abra Raccourci, que tu sais, où tu as une tête de bœuf au-dessus de la porte avec deux boucliers de part et d'autre, ce qui est très cliché de la maison d'Abra Raccourci, ça, le chef. Et par exemple, cette tête de bœuf, c'est moi qui ai dû la faire en 2D avant qu'elle soit modélisée. Et là, clairement, ça devait être du style Goscinny, tu sais. Donc ouais, c'est vrai, c'était vraiment des génies, ces deux gars-là, quoi. Un duo d'enfer.
Bah, on a hâte d'avoir ça, en tout cas.
Moi aussi, je t'avoue.
On l'entend, en tout cas, quand tu parles, que t'es vraiment passionné par ce que tu fais dans ton travail. Mais du coup, comment, d'ailleurs, dès le départ, t'arrivais à concilier ta vie privée, qui est aussi du coup importante, et ta passion qui est devenue aussi ton travail, en termes d'équilibre de temps, de travail, pour pas trop prendre sur ta vie privée, c'était comment ?
Alors c'est une très bonne question aussi. Alors ça, je t'avoue que du coup, je t'ai dit, ça fait à peu près 10 ans maintenant que je fais ce métier, et sur les 10 ans, ouais, il y a au moins, ça je le dis pour peut-être tous les illustrateurs ou concept artistes en herbe, je pense que c'est une info un peu importante, c'est qu'il faut quand même un petit peu d'abnégation au début, il faut un peu faire des sacrifices. Il faut beaucoup, beaucoup travailler pour arriver au niveau, pour se sentir professionnel et concurrentiel, entre guillemets. J'aime pas du tout ce terme, mais tu vois ce que je veux dire, du coup. D'avoir un peu un poids dans l'industrie et que les gens aient envie de travailler avec toi et d'avoir un niveau acceptable pour que les gens aient envie de travailler. Il faut quand même beaucoup se focaliser sur son métier. J'ai peut-être mis un peu de côté ma vie privée à ce moment-là, mais j'avais tellement envie, tu vois. Et en même temps, voilà, sur 10 ans, il y a 5 ans, il faut vraiment être à fond. Et après, tu peux commencer à surfer un peu plus sur certains acquis, même si on apprend tous les jours et que moi-même à 60 ans, j'apprendrai encore des nouvelles données sur le dessin, sur le concept art et tout ça. Mais ouais, il faut quand même être bien motivé et essayer de dessiner chaque jour que Dieu fait, quoi, pour devenir le meilleur avec tes capacités, quoi. Donc ouais, un peu d'abnégation quand même.
Bon, aujourd'hui, ça a quand même bien payé ses fruits finalement, parce que tu te retrouves en salle et tout ça.
C'est ça, ouais.
T'as quel regard du coup et quel sentiment aujourd'hui? Tu dois quand même être assez fier, puisque t'es quand même invité en festival, notamment là avec Paul Vos Cinéma, mais il y en a eu d'autres aussi auparavant. T'es projeté en salle, ça doit être
C'est ça. Et puis même dans les festivals où j'ai été invité, bon là c'était plus par rapport à mon côté freelance et mon côté youtubeur aussi, où j'avais même remporté un trophée YouTube et tout en festival et tout, c'était génial. C'est que j'ai même pu rencontrer pas mal de mes idoles, hein, que ce soit des idoles YouTube ou des idoles d'acteurs ou de doubleurs aussi. Moi qui adore le cinéma, voilà, il y a plein de doubleurs. À un moment donné, je discute avec un mec super sympa, la cinquantaine. On était en mode apéro VIP, tu sais, dans les loges et tout, puis on prend l'apéro tranquille et tout ça, et puis moi je le trouve super sympa, je dis, putain, en plus il a une voix hyper agréable, et du coup je kiffe le moment avec lui, mais je savais pas du tout qui c'était. Et on commence à lui, voilà, il me dit, et toi t'es là pourquoi? Ben, je lui explique que je suis là pour un trophée YouTube, et tu dis, ah, c'est cool, machin, le dessin, YouTube, ok. Et moi je dis, et toi tu fais quoi? Il dit, oh, ben moi je suis doubleur, et puis j'ai doublé la voix de Christian Bale dans The Dark Knight, et ah ouais, d'accord. Et ça j'adore aussi, c'est que en plus certaines idoles que j'ai pu rencontrer, genre j'ai rencontré le mec qui fait le marcheur blanc dans Game of Thrones, Radagast dans The Hobbit, on a eu des vraies interactions où je leur ai fait des dessins qu'ils ont gardé en souvenir et tout, tu sais. Bon, je dirais pas que c'est mes potes, mais on a eu un vrai truc. Et ce que j'adore en plus, on est vraiment dans la section vivre ses rêves, hein, c'est aussi d'aborder des gens pour qui t'as un profond respect artistique, mais en tant qu'artiste aussi, ou en quelque part, même si on n'est pas dans les mêmes industries et le même niveau, on est un peu, ben, on est des professionnels qui discutons les uns avec les autres. Et je pense que eux aussi, ils ont toujours aimé ça, enfin ceux que j'ai croisés, ils ont aimé ces moments, parce que moi, j'ai essayé de cacher un peu la groupie qu'il y avait en moi. Et que du coup, je les abordais en tant qu'être humain, en fait, en tant que professionnel. Et c'était des moments, ouais, des super moments, ça. Oui, et ce qui est super puissant pour moi, c'est vrai, la fierté que je peux ressentir, c'est que je pars vraiment de rien, en fait. J'ai jamais fait d'école. Je suis né dans une famille de hippies, très, très humble, avec pas beaucoup de sous. Et en fait, je suis un petit gars qui a grandi à la campagne, dans un petit village tout mignon, et à force de savoir rêver, d'être un petit peu ambitieux, d'avoir un peu de talent, d'avoir conscience que ce talent, il faut le travailler pour que ça devienne un rêve qui se concrétise, de passer du temps pour avoir un bon niveau et tout, ben, du coup, je suis assez fier d'être la preuve vivante qu'en France, même sans diplôme, finalement, on peut y arriver si on croit en ses rêves et qu'on est bosseur. Et voilà, et surtout du travail, voilà. Mmh. C'est se dire, travailler, enfin, fournir du travail, c'est transformer ses rêves en projets et en trucs concrets, en fait. Sinon, ça reste que du rêve fumeux dans ta tête. Mais ouais, du coup, je pars tellement de loin que ça aurait une très grande fierté, tout ce que j'ai pu faire et tout ce que j'ai pu vivre. Donc, comme quoi, les amis, avec de la motivation et de l'énergie, on arrive à tout.
Ouais, c'est super, super. Merci beaucoup. J'invite vraiment tout le monde à aller voir tes films en salle, à aller les voir sur Netflix bientôt. Et surtout,
toi,
aller voir ta chaîne YouTube et Twitch pour vraiment découvrir qui tu es et ce que tu fais. Et peut-être apprendre aussi à dessiner au passage, pour certains.
Venez, les amis, il y a une bonne ambiance, vous allez voir. Et vous allez apprendre à dessiner en plus.
Ben, merci beaucoup.
Merci à toi, Margot, c'était un plaisir.
C'était Margot en compagnie de Gwen Vibankos pour l'émission Ça part de là sur Radio Campus Montpellier. Merci au Cinéma Diagonal pour leur aide, à Marceau Maurice pour les designs de l'émission et à vous pour votre écoute. À très bientôt pour découvrir un nouveau parcours.